C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Moi, c'est Marion.
Et moi, c'est Louise.
Bienvenue dans C'est pas sorcière.
Le podcast qui explore l'histoire de la sorcellerie.
Et les pratiques ésotériques. C'est notre 19e épisode, je crois.
Oh, j'étais en train de réfléchir. On était connectés.
Bravo, nous.
C'était plus rapide.
C'est ouf. De quoi tu veux nous parler, Louise, dans ce 19e épisode ?
Je vais te parler d'une légende américaine. Comme ça, je vais encore pouvoir utiliser mon bel accent anglais. Et tu pourras te
moquer. Cool. C'est une légende américaine du Nord ou du Sud ?
Bonne question. C'est dans le Maryland. Je crois que c'est au centre, non ?
Aucune idée. C'est quoi ? Je vais la regarder tout de suite.
Je suis en train de regarder sur une carte. Tu enlèveras bien ça au montage.
Non.
Non, attends que je l'ai dit.
c'est en haut.
Ah oui, non, c'est pas du tout.
Enfin, au Nord, comme disent les gens qui savent dire proprement les...
Ouais, ouais. Et puis c'est à côté de Washington.
La capitale est Annapolis, si ça vous intéresse.
C'est à un océan de la France.
C'est sur la côte est, pour ceux que ça intéresse. Ça a l'air très joli, ma foi.
Sponsorisé par l'Office de tourisme du Maryland. Et toi, de quoi tu veux parler ?
Moi, je vais parler des animaux en magie, mais pas les familiers. Le revers moins rigolo.
Oh, non, ça va être tous les sacrifices, ouais. C'est ça ?
On va avoir un peu le seum, pardon.
Eh ben, j'espère que tu as une bonne anecdote pour finir.
Oui, et pourtant au début, je voulais choisir, parce que j'ai vu beaucoup d'articles passer avec des meurtres et de la sorcellerie. Je me suis dit, bon Marion, il faut choisir ses combats. Tu peux pas les laisser comme ça. Du coup, j'ai pris encore une recommandation, mais au moins, c'est un peu fun.
Ah, ça fera du bien.
On apaisera nos âmes après les avoir fait un peu saigner.
On y va ?
Allez, go !
C'est parti. Donc, je vais te parler de la légende de Moll Dyer, qui a inspiré The Blair Witch Project.
Ah !
Et qui est donc un sujet très risqué parce que j'ai pas vu Blair Witch Project.
Eh bien, moi, je l'ai vu, donc je pourrais compléter ton point de vue.
Exactement ce que je me suis dit.
Je l'ai vu il y a longtemps.
Ça sert à rien de le regarder, elle fera le point de vue. Et surtout, j'aime pas les films qui font peur.
Oui, aussi, je me suis dit, pourquoi est-ce que Louise, elle aurait vu ça ? Ça va pas. Même le matin à 8h du mat' avec ton bol de céréales, je te vois pas... Non, tu ne manges pas de céréales non plus.
Si.
Si, tu manges des céréales ?
Ouais.
Ah ouais.
Avec du yaourt, tous les matins.
Avec du yaourt ? Ouais, mais c'est des...
Enfin, du granola.
Voilà, c'est du granola. Attends, moi, quand je parle de céréales, je parle de Nesquik. Hein.
Ah ouais. Ça, j'en mangeais beaucoup quand j'étais ado, ouais. Mais maintenant, je suis devenue une adulte, je mange du granola.
On passe un podcast sur les céréales et la magie.
Ah, je suis chiante,
pareil,
en fait.
J'étais à la caisse,
merde.
Ça marchait. En fait, on digresse, mais je pense que c'est important que les gens le sachent, que... Il y a des gens comme moi qui, quand ils sont à la caisse des supermarchés et qu'ils attendent, tu sais, si tu vois un article oublié, tu te dis, tiens, je pourrais le prendre. Et c'était un énorme paquet de cornflakes sans sucre, sans rien, bio truc. Je me dis, vas-y, tu sais quoi ? Je mange jamais de céréales, je vais manger des cornflakes.
Ça m'est jamais arrivé.
Et ben, ça fait 2 semaines que je mange des cornflakes.
Moi, à chaque fois, je me dis, mais qui est cette personne qui ne respecte pas les employés du supermarché ?
Oui, il y a ça déjà. Mais non, des fois, ça m'arrive, je me dis, tiens. Ouais, c'est vrai, j'ai pas de concentration.
C'est ton petit côté chaotique.
Ouais, puis je me dis, ça leur fait ça de moins arranger. Moi, ça m'arrange. Peut-être que c'est le destin que moi et que ces cornflakes, on était fait pour se rencontrer.
Ah, c'est beau. Revenons à Moll Dyer.
Pardon,
on a bien digressé là. Donc, Moll Dyer, elle aurait vécu au XVIIe siècle. Et sa légende, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle vient de l'état du Maryland aux États-Unis. Alors, je dis légende parce qu'on n'a aucune preuve de l'existence de cette femme. On a juste des documents de l'immigration de l'époque qui montrent qu'un bateau est venu d'Angleterre jusqu'aux États-Unis dans lequel il y avait marqué sur le registre Marie, Marg et Maligo Dyer.
Okay.
Et il se trouve qu'à l'époque, Moll, c'était un surnom courant pour Marie. Oh. Donc, peut-être que la certaine Marie Dyer, c'est Moll Dyer de l'histoire.
Marie Moll.
Ouais, du coup, je suggère à tout le monde d'appeler toutes les Maries que vous connaissez Moll.
Mais attends,
je pense qu'elles apprécieront. M-O-2-L.
M-O-2-L, ben, je comprends pas, ça devrait être le diminutif de Molly.
Eh ben, pas à l'époque.
Ça me perturbe.
Mais en même temps, c'est Mary, déjà. Mary Moll. Puis en plus, qu'est-ce que Mary, ça a besoin d'un diminutif ? Enfin, il n'y a déjà qu'une syllabe.
Ça n'a aucun sens.
Bref, Moll Dyer. L'histoire, elle est souvent datée précisément de 1697, parce que c'est une année où l'hiver était très rude. Et elle est située exactement dans la ville de Leonardtown. Donc, comme je viens de dire, l'hiver est très rude. Et en plus de ça, les habitants subissent une épidémie qui est probablement une épidémie de grippe. Or, on est à une époque joyeuse où il y a beaucoup de procès pour sorcellerie. Il y en avait beaucoup dans l'état du Maryland, exécution. Donc, c'est un peu sans surprise que les habitants de la ville vont chercher une sorcière à condamner pour tous leurs problèmes, pour la météo, pour l'épidémie.
Évidemment, c'est plus pratique.
Exactement. Et ils vont faire une petite réunion à l'église de Leonardtown et décider...
Les réunions, c'est vraiment un truc de l'enfer.
Ouais. Ils sont tous réunis dans l'église et décident de faire probablement un jeu de pique-nique douille, c'est toi la sorcière. Et celle qui perd, c'est Molle d'ailleurs. Aussi parce que c'est une vieille femme qui vit à la périphérie de la ville.
Bien sûr, voilà.
Du coup, elle a tous les bons points pour être la prochaine sorcière.
On déteste les vieilles, on déteste les femmes et on déteste les banlieusards. Et alors, si c'est la même personne, aucune chance de vous en sortir.
Cocombo. Et alors là, ils vont faire le truc qu'on voit dans tous les films. Ils vont prendre leur fourche, leur torche. Ils vont tous partir de l'église vers chez Molle d'ailleurs en disant « Ouais, on va tuer la sorcière, ouais !» Enfin, probablement, hein, je reconstitue la période de l'époque.
je vois bien ce genre d'ambiance.
Tu vois les émissions où ils te font des petites reconstitutions avec l'historien qui explique, puis ensuite t'as une scène où tu vois plein d'acteurs déguisés avec leur torche.
Exactement, hyper convaincant. Et des costumes approximatifs.
Et donc, ces gens pas contents, ils vont aller jusque chez Molle d'ailleurs et ils vont foutre le feu à la maison pour brûler la sorcière.
Enfin, voilà. Elle vivait en périphérie de la ville, ils se sont pas dit, ça peut peut-être foutre le feu au quartier. Mais quel monde d'abrutis.
Ouais, mais elle était assez périphérique pour qu'il y ait juste la maison qui flambe.
C'est mal.
Sauf que Molle d'ailleurs, elle n'était pas dans la maison, donc elle n'a pas brûlé vive. Il y a plusieurs versions de la légende, soit elle était partie et quand elle a vu que sa maison était en feu, bah, elle a fait demi-tour. Soit quand elle a vu la foule approcher, elle s'est sauvée.
Ouais, j'espère pour elle.
Enfin, peu importe, en tout cas, elle n'était pas là et surtout, elle a vu qu'elle n'avait pas intérêt à être là et elle a fui. Mais malheureusement, comme je l'ai dit plus tôt, l'hiver est très rude et donc elle s'enfuit dans la nuit. Et elle ne va pas résister au froid.
Oh non.
Elle va s'effondrer sur une pierre et elle va mourir d'hypothermie.
Oh, mais c'est horrible.
Voilà. Ce qui est assez ironique parce qu'il voulait la brûler vive et finalement elle meurt d'hypothermie.
C'est pas beaucoup mieux, je pense.
Son corps va être retrouvé des jours plus tard, complètement gelé. Et elle a une position un peu particulière parce qu'elle a une main sur la pierre et son autre main qui est tournée vers le ciel. Et du coup, il pense qu'elle est en train de jeter une dernière malédiction sur la ville de Leonardtown. Et selon les versions de la légende, ça peut être de l'infertilité, la famine, de la mortalité infantile, enfin, ce que tu veux.
Il mériterait.
Du coup, je me demande, si toi, tu devais jeter une malédiction sur une ville, qu'est-ce que tu ferais?
Je souhaiterais qu'ils aient tous dans la tête l'air d'une chanson qu'ils détestent jusqu'à la fin de leur vie.
Oh, 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 oh.
Ouais, c'est cruel. Et en même temps, il y en a qui méritent. pauvre vieille dame, quand même, obligée de mourir toute seule dans la forêt parce qu'il y a des abrutis qui se sont dit « Tiens !»
Alors, c'est une légende. Hein.
Oui, c'est une légende. Mais ça a sûrement déjà existé.
Probablement, surtout à l'époque, là.
Une histoire très farfelue, tu vois. Je pense que ça a déjà eu lieu.
Par contre, évidemment, cette partie malédiction, là, ça part dans le farfelu.
Il y a des gens qui meurent dans toutes sortes de positions et ça ne veut rien dire.
Et du coup, bah, du fait qu'il y a cette histoire de malédiction, la légende continue et il va y avoir plein d'histoires surnaturelles. Donc, on dit que dans Leonardtown, et encore aujourd'hui, on raconte qu'on peut voir la sorcière sur les routes de la ville, qu'on peut voir des créatures fantomatiques dans le brouillard, ou encore on voit des chiens blancs qui causent des accidents de la route.
Chien blanc.
Ouais, moi je pense que le dernier truc, c'est littéralement des gens qui ont vu un chien pendant qu'ils étaient en train de conduire et qui ont été distraits. Parce que moi je conduisais de nuit et la lune était genre pleine lune, super grosse et super belle et c'était magnifique. Et du coup, je regardais la lune et je me suis rendu compte que j'avais complètement changé de voie sans faire exprès. Heureusement, il n'y avait personne sur la route, mais j'aurais pu créer un accident s'il y avait du monde sur la route et que ouais, j'aurais accusé probablement une malédiction.
Comme quoi, la beauté de la nature, c'est pas toujours bien. Hein.
Voilà, regardez pas la lune quand vous conduisez. Je l'ai fait parce qu'il y avait personne sur la route, mais c'était quand même pas une bonne idée. Tu peux mourir tout seul sur la route.
Ah bah merci la lune. Hein.
Et du coup, comme on disait tout à l'heure, quand elle est morte d'hypothermie, elle s'est allongée sur une pierre. Et de nos jours, il est toujours possible de voir le gros caillou sur lequel on a retrouvé le corps de Maul, avec en plus une trace de sa main dans la pierre. Donc si vous regardez les photos, c'est littéralement un gros caillou gris avec des petites marques dedans. Voilà.
Parce que oui, quand tu meurs sur une pierre, tu laisses la trace de ta main dessus.
Mais clairement, c'est pas vrai, du tout convaincant que c'est une trace de main.
Je pense que si ça avait été une sorcière, elle aurait peut-être réussi à laisser une trace très convaincante de sa main.
Bon, bah oui, on aurait vu les cinq doigts et tout. Là, non, non, il y a juste trois petites indentations. Ils ont fait « Ouais, c'est la mort !» Non. Non, non. Et par contre, du coup, autour de la pierre, il y a aussi des histoires. On dit que si tu la touches, tu deviens malade. Et à l'inverse, pour diminuer la malédiction, tu dois faire des offrandes aux cailloux, ou disposer des cadeaux.
Des offrandes aux cailloux.
Et du coup, je me demande si c'est pas un peu de la lithothérapie.
Je sais pas, je pense que c'est plutôt une sorte de culte aux cailloux.
Ouais.
Voilà, la youtubeuse Manon Bril, elle fait un culte à la poutre. Et ben là, c'est pareil, mais avec les cailloux. Donne au caillou, peut-être le caillou il va te rendre. Ou en tout cas, peut-être que le caillou ne va pas t'agresser. Maudire.
Voilà. Et du coup, en fait, c'est un peu ce caillou qui m'a fait faire cette histoire sur Maul d'ailleurs. Parce que quand j'ai vu les photos du truc, je me suis dit, il faut que je partage cette légende.
Tu vas la regarder.
C'est un caillou, mais il est même pas intéressant, il est même pas joli, quoi. C'est vraiment un gros caillou gris.
Maul d'ailleurs, ça s'écrit comment ?
M-O-2-L et D-Y-E-R.
Ok, Maul d'ailleurs, rock. Ah ouais, c'est vraiment un gros caillou.
C'est super nul.
C'est genre juste un gros galet.
Oui.
En plus, tu peux le transporter où tu veux.
Eh bien, justement, il a été transporté. Quand l'histoire se passe, on n'a pas retrouvé le caillou. Et il a été retrouvé des siècles plus tard dans un musée. Et maintenant, il est exposé à l'extérieur pour que tous les touristes puissent le voir.
Ah, il y a des gens qui prennent des photos avec leurs mains dessus.
C'est littéralement un piège à touristes. Ils ont pris n'importe quel gros caillou dans la forêt. Ils ont dit « On a retrouvé le caillou de... » Ouais, bien sûr.
Ouais.
Oh, c'est... Évidemment que si on allait à côté, on se prendra en photo avec le caillou.
C'est bien pour le folklore de la ville, ça leur fait un truc, quoi.
Voilà. Et bien justement, pour le folklore, c'est génial parce que c'est une légende qui va beaucoup être réutilisée dans la culture populaire. Il y a eu pas mal de livres ou de films qui ont été inspirés de la légende de Maul d'ailleurs. Le plus connu, c'est probablement Blair Witch Project. Est-ce que tu peux confirmer ceci ?
Je ne savais pas du tout, en fait. Je ne me rappelle pas beaucoup de l'histoire, mais globalement, l'idée, c'est qu'il y aurait une forêt hantée par une sorcière. Je ne me rappelle pas du tout qu'il y ait eu une histoire de persécution comme ça ou de cailloux. Une maison, une sorte de maison ou cabane dans la forêt. Mais je n'ai pas de souvenir de ça. Par contre, là, je suis en train de regarder. Ils ont fait un jour le Maul d'ailleurs Day.
Eh bien, c'était ma conclusion.
Pardon.
En 2021, le maire de Leonardtown, donc là où s'est passée la légende, Dan Burris, a choisi le 26 février comme le jour de Maul d'ailleurs. Et c'est une journée pour célébrer à la fois la légende de la sorcière, mais aussi l'histoire de la ville.
Ok.
Voilà.
Mais écoute...
Et du coup, je me suis dit, en plus, ça tombe bien cette saison, 26 février, ouais. L'épisode sort en mars.
Des très beaux tableaux qui ont été faits. Tu vois Maul d'ailleurs, avec une main sur le caillou, une main en l'air.
Et non, attends. Mais magnifique, l'épisode va sortir le 26 février.
Mais non !
Ah !
Ah !
Ah, je l'ai pas fait exprès. Oh, dis donc, le hasard !
C'est vrai ? Tu l'as pas fait exprès.
C'est formidable. Eh bien, happy Maul d'ailleurs Day, si vous êtes en train d'écouter ce podcast au moment de sa sortie.
Joyeux jour du caillou.
Caillou Maul.
Happy Caillou Day.
Voilà.
J'espère que c'est qu'une légende, parce que si c'est une histoire vraie, c'est trop triste.
Écoute, vu toutes les histoires vraies de sorcières que je lis, je suis plus assez prêt.
Je pense que c'est sûrement une histoire vraie, même si c'est pas molle d'ailleurs et que ça s'est pas passé là.
Mais... C'est ça, il y a bien une personne à
qui. Laissez les vieilles tranquilles, c'est déjà assez dur dans notre société d'être
vieille. Mais je crois qu'au final, c'est peut-être mieux de mourir d'hypothermie que de mourir exécuté après des semaines de torture.
Parce que je crois qu'en plus, quand t'es en hypothermie, ton corps il s'endort, il est anesthésié un peu.
Oui, tu dors.
Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mieux que de brûler vif.
Mais tu meurs des fumées souvent.
Ah oui, c'est vrai. Mais je pense que t'as quand même le temps d'avoir très chaud. Hein. À moins que vraiment ils aient allumé un feu.
Ouais.
Ouais. Typiquement, si c'était moi qui allumais un.
Voilà ouais. On va enchaîner avec ton sujet super.
Je crois que toi aussi t'as prévu un truc pas trop déprimant pour les anecdotes.
C'est l'épisode de la déprime. C'est bientôt la fin de l'hiver, vous inquiétez pas.
Bon, alors. Le titre officiel de cette chronique est « L'usage des animaux en sorcellerie ». Mais bon, on va pas trop parler de l'usage, on va surtout parler de mon point de vue et pourquoi c'est de la merde. Mais, du coup...
Un épisode très neutre, justement.
Bah oui, c'est notre podcast, on fait ce qu'on veut.
D'un point de vue complètement voilà. Subjectif, je vais vous raconter.
Je peux vous dire que c'est de la daube. Donc, un sujet, les animaux en sorcellerie, on avait un petit peu parlé des familiers dans l'épisode 11. C'était donc les familiers, c'est comme ça qu'on appelle les animaux de compagnie de sorcières type chat, qui peuvent genre prendre part à la vie de la sorcière, j'en sais rien. Par exemple, moi, mon chat, une fois, il a fait tomber des cartes de tarot et je me suis dit « Ah, il est trop fort, il a tiré les cartes ». Non, il est pas trop fort, il est assez stupide. Bref.
C'est juste un chat.
C'est juste un chat.
Il aime faire tomber des trucs.
C'est un agent du chaos. Mais on va pas s'attarder du coup sur tout ce qui est symbolique des animaux et tout, mais comment ils sont plus ou moins devenus en sorcellerie des objets comme les autres. L'autre jour, je suis tombée sur un article de Vice. Déjà, je l'ai regardé, ce qui est beaucoup dire. Je fais beaucoup de choses pour ce podcast. Qui s'appelle « Dans le plus grand marché de sorcellerie au monde ». Ça se passe à Akodesewa, au Togo. Et on y vend beaucoup, beaucoup de têtes d'animaux séchés. Notamment, il y a pas mal de personnes qui appellent ça le marché aux têtes. Et de divers morceaux
on
d'animaux.
On a parlé de cet article.
Ah, eh ben, il ne faut pas regarder. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Avertissement numéro 1. N'allez pas voir, je suis pas fan de Vice de toute façon, mais là les photos sont particulièrement dégueulasses et si vous avez un peu une âme sensible, vaut pas l'intérêt de s'infliger ça.
Abstenez-vous.
Voilà. Déjà juste l'imaginer c'est chiant. Et avertissement numéro 2, l'idée c'est pas de dire oh là là, au Togo ils traitent trop mal les animaux et nous avec nos fermes intensives on est vraiment des amours. C'est plutôt de balayer.
Qu'on est tous pourris.
Et de soulever le paillasson. Voilà. Donc, quand je dis donc l'utilisation des animaux, c'est un mot que je choisis exprès, parce qu'en fait, on en fait usage comme vraiment d'un outil, d'un ingrédient comme un autre, et je parle pas vraiment d'un os que tu trouverais sur le chemin et que tu ramasses, ou d'une plume. Là, on parle vraiment d'animaux qui ont été tués pour cet usage-là. Donc, on va avoir des cornes, c'est notamment le cas de, par exemple, des rhinocéros qui sont beaucoup braconnés pour leurs cornes, qu'on réduit en poudre. Il y a des mâchoires, il y a des os, il y a des pattes, il y a des yeux, il y a tout ce que vous voulez. Et du coup, les membres et les organes de ces animaux-là, ils sont utilisés soit tels quels dans des rituels ou un peu en mode protection comme on faisait avec les pattes de lapin, soit transformés en poudre, voilà, dans diverses préparations pour des rituels, des potions, en médecine traditionnelle, etc. Et si ça vous rappelle quelque chose, c'est normal, parce que depuis tout petit, quand on parle des sorcières, il y a quand même certains ingrédients qui sont un peu devenus cultes, genre la bave de crapaud.
Bave de crapaud.
Voilà.
Les ailes de chauve-souris.
Voilà, ailes de chauve-souris, bec de corbeau, la peau de serpent d'arbre du Cap qui entre dans la composition du polynectar dans Harry Potter. toutes sortes de choses. Et dans d'autres fictions moins enfantines, on sacrifie directement l'animal. Et c'est là où je veux en venir. ça nous ramène au principe de sacrifice qui est présent dans quasiment toutes les religions, les grosses religions, à part le bouddhisme, je crois, qui le proscrit. Et nous, dans la chrétienté, on a principalement le truc de l'agneau pascal.
Bah, dans la Bible, il y a énormément de sacrifices d'animaux.
Ouais. Bah ouais. En fait, à partir du moment où les grandes religions monothéistes te font comprendre que l'animal est un bien dont tu peux disposer, c'est normal en fait d'en utiliser comme d'un bien.
Après, il y a aussi des sacrifices d'humains.
Oui, il y a aussi des sacrifices d'humains, je vais en parler d'ailleurs.
Ah.
Je vais en parler. Mais du coup, c'est tout sauf étonnant qu'on utilise bien sûr des animaux en sorcellerie, puisqu'on les utilise dans notre monde en général, qu'ils n'ont pas une super, ils ont pas une super vie, on va pas se mentir. Être un animal en 2023 comme il y a 2000 ans, c'est pas ouf. C'est vraiment très ancien comme chose, le sacrifice, et c'est répandu dans quasiment toutes les cultures, comme je l'ai dit. J'ai essayé de chercher, de faire des petites recherches là-dessus, mais globalement, oui. Il y avait plein de raisons pour lesquelles on sacrifiait dans n'importe quel culte que ce soit. L'idée, le sacrifice, le mot même, ça veut dire rendre quelque chose sacré, slash divin, slash magique. Et l'idée, c'est que pour le rendre magique, lâche, tu le manges. Souvent, en fait, par exemple, là, les animaux dont je parlais, qui sont réduits en poudre, on les ingère, ou on va les mettre dans des coupures sur notre corps, tu vois. C'est l'idée, c'est pas
C'est
que de.
marrant cette
Et
envie de
oui.
l'humain de manger plein de trucs.
Ben, justement, il y a ce truc où le fait d'ingurgiter quelque chose, on pense que comme c'est en nous, ça nous donne sa force. Et quand j'étais en licence de cinéma, j'ai eu un cours très long et très chiant sur la mythologie qui n'était pas intéressant du tout. Mais j'ai retenu un truc, une phrase qui est: quand tu manges le serpent, tu deviens le serpent. Et je pense que dans notre tête, ça va pas plus loin que ça en fait. Et du coup, autre chose qui est importante avec le sacrifice, c'est l'idée en fait que tu vas donner quelque chose à un dieu, une divinité, une entité, un esprit. Tu en fais don pour une partie et tu en consommes un peu aussi. Et donc l'idée, c'est que tu le donnes et tu le prends en même temps. Tu fais le don à la divinité et tu l'absorbes. Donc il y a ça. Et deuxièmement, c'est ça, on l'absorbe pour sceller le rituel ou pour en ingérer les propriétés. Scientifiquement parlant, effectivement, on n'est jamais aussi proche de quelqu'un que quand on le digère. Est-ce que c'est une raison?
Il est en nous.
C'est d'ailleurs à la base des pulsions cannibales qu'ont les gens, tu sais, quand ils disent: ah, mon enfant, il est trop mignon, j'ai envie de le manger. Moi, j'ai ça avec mon chat, par exemple. Des fois, je
Ouais.
trouve trop mignon, j'ai envie de le
Bah, j'ai lu
bouffer.
un livre l'autre jour scientifique qui parlait de ça et que c'est souvent avec les choses mignonnes et que c'est naturel en fait
Ouais.
d'avoir ces réactions violentes. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'agir.
Oui, voilà. Normalement, on a de quoi restreindre notre pulsion. Et de toute façon, la bouche, c'est ce avec quoi on mange, mais c'est ce avec quoi on fait des bisous aussi.
Bah,
Donc,
quand t'es bébé, tu
c'est un
sens
peu
tout avec ta bouche.
lié. Ah, bah ça. Là, actuellement, j'ai mon chat qui est en train
Tu viens de
de
comparer ton chat à un bébé.
me sentir avec sa bouche. Bah, mon chat est mon bébé, parce qu'actuellement, il repose sur mon bras en me regardant très mal parce qu'il est.
L'heure de manger.
Pff, non, il n'est pas bientôt l'heure. T'abuses, c'est dans une demi-heure. Bon. Ça pour dire qu'effectivement, quand on est bien élevé, on n'est pas censé faire ça, manger les gens ou les gens qu'on n'a pas besoin de manger. Donc, mais il y a aussi une idée de quand tu sacrifies quelque chose et que dans ta tête, tu le rends sacré, bah, tu t'enlèves la culpabilité de le faire. Et alors, c'est un anthropologue qui s'appelle Jean-Pierre Albert, qui est directeur de recherche à l'école des hautes études en sciences sociales. T'as vu? Il a participé à une émission qui s'appelle La viande, le nouveau péché de la chair, et j'ai juste lu un bout de l'interview. En gros, ce que j'ai retenu, c'est l'idée qu'on sacralise la mise à mort de l'animal parce qu'on a une conscience et que quelque part, on a besoin d'une excuse divine pour le faire. Et que, en gros, ça contenait, même à l'époque où le sacrifice animal, c'était quelque chose de normal dans les sociétés, ça contenait l'agressivité des gens. Il y avait ce truc de vachement festif, de ah, ça on le fait parce que bon, bah voilà, on mangeait pas forcément de la viande tout le temps, d'ailleurs c'était quelque chose d'assez rare en fait. Et il y avait une idée de, ouais, de trouver un défouloir, mais encadré. Je pense que ça tient plus de ça que de la spiritualité, au fond. Qu'est-ce que je voulais dire après? Oui, là où je veux en venir, c'est que je vais vous donner mon avis, puisque c'est ce que j'adore faire, puisque je suis ascendant. Voilà, il y a des sacrifices humains. Pour moi, c'est la même chose que le sacrifice animal, c'est-à-dire que tu prends quelqu'un, tu le donnes. Et sauf les Mayas qui, eux, faisaient don de leur propre sang, et pour qui c'était un grand honneur. C'est Manon Bril, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui a fait une vidéo là-dessus, qui est très intéressante. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Les Mayas, c'était super qu'ils fassent ça, parce qu'ils donnaient ce qui était déjà à eux, leur propre sang. Ils ne le prenaient pas à quelqu'un d'autre.
même quand c'était un sacrifice genre jusqu'à la mort, donc c'était pas eux qui donnaient, c'est quelqu'un qui les tuait, souvent c'était des personnes qui étaient volontaires parce que c'était un immense honneur d'être sacrifié.
Ah, ça c'est bien.
Alors moi clairement je préfère être déshonorée, mais chacun sa religion.
Oui, mais en même temps je pense que si on avait vécu dans cette société-là, on aurait trouvé ça super bien aussi.
Peut-être qu'on aurait...
À mon avis, on aurait été ravis. Et oui, il y a ce truc où c'est pas étonnant du coup qu'on sacrifie des animaux pour la sorcellerie, puisqu'on le fait pour toutes les religions, et que en fait on s'estime être le propriétaire des animaux puisqu'on les voit comme des objets. Mais il y a ce truc en sorcellerie où c'est censé être un échange. Généralement, tu donnes quelque chose pour obtenir en retour. Et c'est là où logiquement ça n'a pas de sens. Parce que pour donner quelque chose, il faut vraiment le posséder, il faut que ça te coûte quelque chose, mais ça te coûte rien du tout d'aller trouver un poulet et de l'égorger en fait. Toi, ça ne te coûte rien. Donc comment tu peux croire que ta divinité...
Ouais, mais dans ce cas-là, quand tu utilises des trucs de la nature, ça te coûte rien du tout non plus.
Moi, pour les plantes, c'est pas la même chose, parce qu'il y a vraiment cette idée de juste... ça fait... C'est pas un sacrifice, les plantes. Genre, je pense que les dieux, ils en ont rien à foutre des plantes.
Écoute, là ça devient philosophique.
J'aurais pas demandé, hein. Ah ouais, j'avoue, je me suis un peu laissée emporter. Mais bref, tout ça pour dire que s'il n'y a pas d'échange et que c'est juste prendre pour prendre, ça n'a pas de sens. Voilà. Mm. Donc c'est de la merde. Magiquement, philosophiquement, éthiquement, conclusion. Mathématiquement, ça n'a pas de sens.
Conclusion, voilà. Arrêtez de tuer les animaux, s'il vous plaît.
C'est pas parce qu'on fait un truc depuis la nuit des temps qu'il faut continuer. Ça s'appelle l'évolution. Ah oui, si, j'avais quand même un dernier paragraphe, oui. Comment on remplace les trucs d'animaux dans les rituels de magie? Eh bah, on va en forêt et on ramasse des trucs. des plumes, il y en a plein. Des coquillages, il y en a plein. Des petits os, il y en a plein. Si vous connaissez des gens qui mangent du poulet, bah voilà, il y a des os. S'il faut du sang et que vous avez la chance d'être menstrué, vous en avez et vous n'avez même pas à vous faire mal. Vous avez peut-être des dents de lait, j'en sais rien. Il y a plein de trucs à faire. Et puis, généralement, en magie, ce qui compte, c'est le symbole, donc, en
tu
fait.
Tu peux faire littéralement avec ce que tu as dans ton placard. Et puis,
au sens du moment où tu symbolises le truc. Ça marche. Le don de soi, c'est pas forcément des parties de corps. Hein.
L'amour.
C'est juste être votre temps, votre énergie. C'est faire bien, le don de soi, comme dirait Otis dans Mission Cléopâtre.
Exactement. C'était ta chronique philo.
Carrément.
On va recevoir des pavés de réponses.
Aïe, j'ai peur.
Alors, adressez-les à Marion. M-A-R-I-O-N.
Oui, je les adresserai à mon chat.
Comment je me désolidarise.
De ouf. Elle aussi, elle est végétarienne. Hein.
Ouais, mais elle aime pas le conflit.
Ah, moi non plus, j'aime pas le conflit. De toute façon, j'ai pas besoin d'être en conflit, je sais que j'ai raison.
Papa oh. Ah, mais ça, c'est une bonne philosophie de vie. J'ai pas de conflit si j'ai raison. Je vais m'en faire un t-shirt. Alors, c'est le moment de faire la partie anecdote.
C'est les anecdotes. C'est les anecdotes.
Je tiens à préciser que dans ma famille... On s'est moqué du fait qu'on fait notre jingle anecdote à la bouche.
Ah, moi, je trouve ça trop drôle, personnellement.
Différent à tous les épisodes. Et moi aussi, j'en suis extrêmement fière. On m'a dit, mais tu veux pas créer un vrai jingle et tout? Et puis faire un jingle adapté, parce que comme Marion, elle fait des recommandations souvent pour y faire anecdote et recommandations. C'est... Non.
Mais attends, dans ta famille, c'est qui nous écoute?
Mes sœurs.
Ok, ça va. J'aurais eu un peu plus la pression si c'était tes parents.
Non, ils ont encore du mal avec les podcasts.
Ma mère, je crois qu'elle a écouté un podcast et elle a dit « Mais moi, je viens pas du Berry, tu dis n'importe quoi. » Je suis là, genre, généralement, quoi, la famille du côté de ma mère, c'est pas tranquille. Du coup, elle a pu écouter le reste.
Ah, c'est notre hateuse.
Mais je crois que ma mère, elle est pas très podcast, en fait.
Ah, mes parents non plus. Il faudrait qu'on passe à la radio.
C'est générationnel, ouais.
Parce que le fait d'aller sur une application pour télécharger un épisode, c'est
oui,
pas dans leurs habitudes.
Tu dois te dire que tu peux le faire quand tu veux, vu que l'épisode il est là et t'es pas obligé de l'écouter maintenant. Donc...
Et puis de toute façon, ils nous aiment pas, voilà.
Ah, c'est ça. Si vous les écoutez, bah, vous êtes des parents ingrats, c'est tout ce que j'ai à dire.
Non, je n'irai pas jusque-là, mais. En fait, c'est peut-être pas plus mal parce que je crois que justement, au contraire, s'ils nous écoutaient, ils seraient déçus de nous.
Mais non. Ah, je crois pas. Écoutez, on essaye. D'accord.
C'est bref, les anecdotes. Et ben, comme tu as décidé de sponsoriser cet épisode par Manon Bril, je vais continuer.
Oui. Ah, trop bien.
Puisqu'elle a tout récemment sorti un épisode sur Médée. De sa série, et ben c'est sorti aujourd'hui. C'est de sa série Relooking mythologique.
Ah, trop bien!
Et donc, j'ai lancé l'épisode avec un peu d'anxiété en me disant est-ce que j'ai raconté n'importe quoi quand j'ai fait ma chronique sur Médée? Parce qu'elle, elle est docteur en histoire, ce que je ne suis pas. Mais non, ça va, j'ai pas dit de bêtises.
Cool!
Mais par contre, à la fin, le principe de ces émissions Relooking mythologiques, c'est de montrer comment les figures de la mythologie ont été réinterprétées dans l'art, dans la culture populaire. Et elle m'a appris, et je ne savais pas, et du coup je vous le partage également, que les suffragettes s'étaient réappropriées la figure de Médée.
Ah ouais.
Parce que, en fait, c'était une femme qui a été obligée de faire des actes de violence parce que la société était très injuste avec elle.
Oh, wow,
et donc, elle justifiait les actes de violence qu'elle faisait pour essayer d'avoir le droit de vote, parce que la société était injuste avec elle.
Ok, mais elles se la sont appropriées comment ? Les suffragettes, genre, elles avaient des visuels, elles se le disaient ?
Alors, je n'ai pas eu le temps de faire des recherches, et elle ne l'a pas dit.
C'est fou.
Mais j'imagine que peut-être, oui, ou qu'elle... Peut-être qu'elles avaient des groupuscules qui avaient les noms, genre Médée Girls.
Mais.
Voilà. Et j'en profite aussi, puisque restons dans le Manon Bril, puisque cette personne est formidable. Elle vient de sortir un épisode de son podcast Oyez Oyez, qu'elle fait avec l'humoriste Alex Ramirez sur les sorcières. Je n'ai pas encore pu l'écouter, mais je ne doute pas qu'il va être génial, parce que... comme vous avez pu le comprendre, on l'aime bien Manon.
Cool. Ah, ça fait beaucoup de trucs là. Et pareil, j'ai trouvé plein de contenu cette semaine et je me suis dit qu'il fallait tout noter. J'ai copié les liens et il y a trop de choses intéressantes. Le sujet passionne depuis X années et il y a tout le temps plein de contenu, ce qui est super, mais ce qui aussi, ça fout la pression. Ouais.
Alors, quelles sont tes recommandations ?
Ma recommandation. C'est un jeu, puisque j'ai une Switch depuis 2 mois. Bon, ça fait depuis longtemps que je n'y ai pas joué là, parce que j'ai plus trop le temps. Mais je me suis dit que celui-ci pourrait plaire à nos auditeurs et nos auditrices, parce que ça s'appelle Witchwood, Witch avec un Y.
Ah, j'en ai entendu parler, c'est trop mignon.
Et c'est adorable. Je me souviens que quand j'ai acheté une Switch, j'avais été voir les stories à la une qu'avait mis Taos Merakshi, hashtag Jack Parker, sur Instagram, où elle avait fait plein de recommandations de plein de jeux qu'on appelle cozy game, où en gros, y a pas, tu t'énerves pas sur ton mignon. Jeu, c'est mignon, tu te détends et tout. Et donc ce petit jeu est absolument adorable, je ne regrette absolument pas, et je le recommande. Déjà, c'est très joli, vraiment, visuellement, c'est... plein d'univers différents qui sont très mignons. T'as le principal, c'est la forêt, t'as une plage, t'as un lac, il y a un marais avec des espèces de zombies, t'as un cimetière, enfin bref. Et l'idée, c'est que toi, t'es une petite sorcière, tu vois pas son visage, elle a une, comment on dit, une théière enfoncée sur la tête. Et elle a un petit manteau avec des plumes, elle a une tête, elle a un look particulier. Cette sorcière, elle a un pacte avec le diable. En fait, elle se réveille un jour et au début du jeu et elle a tout oublié. En fait, elle a plus rien dans son grimoire. Donc, il va falloir que tu le remplisses. Donc, il va falloir que tu apprennes à faire des sorts et à réunir des ingrédients pour faire des potions. Et en fait, dans son jardin, elle a une chèvre et cette chèvre est donc le diable qui lui donne des tâches à faire. Et sa tâche, c'est de lui ramener des âmes. Donc il lui dit, voilà, tu dois aller me chercher 2 âmes au village, 1 âme au lac, 1 âme au champ. Et à chaque fois, en fait, c'est des personnages qui sont assez méchants. Donc en fait, t'es pas mécontent de leur amener leurs âmes. Et c'est super... en même temps, t'as un but. un but précis à chaque fois qui est de ramener l'âme du taureau méchant dans les champs qui exploite sa famille. Et en même temps, du coup, l'idée générale, c'est de se réapproprier son grimoire, tout ça. Et en même temps, c'est tellement cosy que des fois, t'as juste envie de te connecter sur le jeu pour récolter les ingrédients dans la forêt. Et c'est très agréable. La musique est très jolie aussi.
Je suis en train de regarder des images de Witchwood.
Et c'est très mignon. En plus, c'est drôle. Il y a les moments où je rigole toute seule devant mon écran parce que c'est vraiment marrant. Notamment tous ces dialogues avec la chèvre, c'est très drôle. Oui, parce que officiellement, il ne s'appelle pas le diable, il s'appelle Goat, la chèvre.
Officiellement.
Là, je recommande.
On sait tout ce qu'il sait.
Actuellement, j'ai une chèvre en forme de chat qui se prélasse devant moi et qui m'empêche de me concentrer.
C'est pas du tout le diable ton chat.
Il est comme dans la chanson de Elvis, The Devil in Disguise. Voilà, là par exemple, j'ai très envie de le bouffer.
C'est naturel. Eh bien, à force de digression, nous avons réussi à faire ce 19e yes. épisode.
Bravo, nous. Ça va être un enfer à monter.
Et du coup. Ça va être un enfer à écouter, désolé.
What you see is what you get. Hein. Vous avez payé pour du chaos, vous avez du chaos. Voilà. Enfin non, vous n'avez pas payé d'ailleurs.
C'est gratuit. C'est du chaos
gratuit.
On vous
l'offre.
Et du coup, les trucs gratuits, c'est toujours bien, donc soyez contents. Et soyez tellement contents que vous pouvez aller écouter les autres épisodes, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur vos plateformes de podcast favorites, et vous abonner pour ne pas rater les prochains.
Oh,
je suis trop
la
forte
meilleure,
en transition quand je le veux.
Transition. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais, je sais. J'étais connectée 5 minutes.
Et quels réseaux sociaux, Marion?
Donc on est sur Twitter, Facebook, mais surtout Instagram.
Voilà.
Et on met des images. Des fois
on met des images.
Des fois on fait des posts.
Ça a l'air vachement ennuyeux.
On répond à vos messages.
Non mais en lien avec les épisodes du coup. Hein, parce
Oui, oui, oui.
Et merci à Moon Hanson, cette fois j'avais pas de transition, pour la musique.
Et surtout à Craig, notre ingé son.
N'oubliez pas de rester magique.